Ce garçon-là, j'étais à quel âge? J'ai 17 ans, il en a 18. Mais j'ai parlé avec l'autre garçon qui est comme un frère pour moi, mais il est jaloux, alors je n'ose pas parler. Arrêtez tout de suite, laisse tomber ce pauvre perdant. Hein. Quand il y a de la jalousie, de cette espèce de possessivité, ça ne vient pas de Dieu. La jeune fille comme le jeune homme doivent sentir que l'autre veut leur plein épanouissement, qu'on n'interdit aucune amitié. On n'est pas possédé par quelqu'un, on est aimé par quelqu'un. Et bien sûr, Eros, l'acte d'amour conjugal, c'est le couronnement, mais ce n'est pas la base de la relation. Alors, un jeune homme, je parle aux jeunes hommes maintenant, qui disent, comment dois-je comprendre cette relation? D'abord, qui êtes-vous? Qui sommes-nous, les hommes? Dieu nous a donné le mandat de gérer la terre et ses ressources naturelles. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la responsabilité de la gestion de la planète, de la gestion de nos vies, de la gestion de nos choix. Nous devons pourvoir les hommes aux besoins physiques, sociaux, spirituels, corporels de la famille. Quand la famille manque de quelque chose, c'est le père, c'est le mari qui doit se sentir concerné. Il peut déléguer à sa femme, tu vas aller faire les courses. Mais c'est pas, écoute, on n'a rien à manger, débrouille-toi, c'est pas mon problème. C'est son problème, c'est le chef du foyer. L'homme est la gloire de Dieu. Il est la gloire du Christ, 2 Corinthiens 11. Si nous sommes la gloire du Christ, on doit chercher à amener d'autres âmes à Jésus-Christ. Un homme qui est au Seigneur doit chercher à témoigner de Jésus pour amener d'autres gens à lui. Un homme doit bâtir et gérer un foyer basé sur la Bible. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur terre, de bâtir un foyer, une communauté spirituelle dans une maison basée sur les Écritures, et ce foyer pour fortifier l'Église et son témoignage dans la localité. Et pour faire ça, l'homme dit, bon, ben, je dois donner une direction spirituelle à ma future femme, par mon enseignement et l'exemple, mon exemple de fidélité à Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez que 15 ou 16 ans ce soir, messieurs, mais quand ce sera le moment pour vous de vous marier, dites, est-ce que je suis prêt à montrer à une jeune femme, ma femme, comment marcher avec Dieu? Est-ce qu'elle sera convaincue par ma manière de vivre la vie chrétienne? Est-ce que je serai un bon exemple pour elle? C'est pourtant ce que Dieu demande à chaque mari. Il doit contribuer et même être prêt à se sacrifier pour l'épanouissement spirituel et personnel de sa femme. Quand un jeune homme trouve une jeune fille et dit « je pense que c'est elle », posez-vous la question. Peut-être la jeune fille que je voudrais épouser est bourrée de talent. Est-ce que je vais l'écraser pour qu'elle ne brille pas plus fort que moi, que je sois le caïd et qu'elle soit sous mes ordres à temps? Ou est-ce que je vais la laisser s'épanouir à sa capacité maximale, sans être jaloux? Et puis, il doit éduquer ses enfants pour qu'ils connaissent Dieu par l'enseignement de la parole et par son exemple personnel. Un jeune homme qui réfléchit au mariage, peut-être il pourrait faire un peu la garderie ou il pourrait peut-être enseigner l'école de dimanche pour apprendre comment parler aux enfants. Parce que dans quelques années, il va en avoir tous les soirs à qui parler. Quel est le rôle de la femme dans le plan de Dieu? C'est beaucoup plus simple, c'est plus complexe, mais c'est plus simple dans un sens. C'est l'aide semblable à l'homme. Son rôle, c'est d'aider l'homme dans tout ça. Et mesdemoiselles, j'allais dire mesdames, mais ce n'est pas encore le moment, mesdemoiselles, comment choisir cet homme? Parce qu'en fait, c'est la femme qui fait le choix final. Hein? L'homme, il a beau venir à genoux avec des roses, veux-tu m'épouser? Si elle dit non, c'est fichu. Hein? Et tous les garçons le savent, c'est pour ça qu'ils ont peur d'aller demander à quelqu'un. Tu ne veux pas demander à ta copine, demander à son copain, parce que si elle dit non, si je pense qu'elle va me dire non, je ne veux pas, parce que là, c'est trop la honte. C'est la femme qui décide quand même, mais à qui je vais dire oui? Eh bien, regardez, est-ce qu'il y a des garçons qui ont un vrai projet spirituel? Connaissez-vous un garçon qui veut vraiment vivre pour la gloire de Dieu, qui veut vivre une vie disciplinée pour le Seigneur, qui veut être un bon père, qui est impliqué dans l'Église? Alors, il faut que vous admiriez cet homme et que vous désiriez l'aider de toute votre vie parce que c'est ce que vous allez faire. Une autre chose, et c'est la soumission. Toutes les femmes ne peuvent pas épouser n'importe quel homme. Toutes les femmes savent, il y a des hommes que vous dites, moi il est bien, il est, c'est un gentil frère dans le Seigneur, mais je suis contente de ne pas être sa femme. Jamais, je ne le respecte pas suffisamment pour être soumise à lui, c'est tout. Il faut que votre mari, vous le respectiez tellement que vous serez heureuse d'être soumise à lui et de l'aider, de le seconder, ne pas le diriger. Parce que si vous êtes soumise, si Dieu vous demande d'être soumise, mesdemoiselles, c'est parce que vous êtes son égale. L'homme et la femme sont égales. Parfois, la femme, par ses dons, est supérieure à l'homme. Puisque c'est une soumission qui est volontaire, voyez, c'est volontaire, ça veut dire qu'elle doit le faire volontairement. Ce qui veut dire qu'elle est son égale. Donc, ne vous laissez jamais dire par un homme, de toute façon, comme tu dois m'être soumise parce que tu es inférieur, c'est pas vrai. L'homme et la femme sont strictement égaux devant Dieu. Mais Dieu donne à chacun une place différente. Et il nous a équipés pour faire cette place. Je vous garantis, quand la femme doit diriger et que l'homme doit l'aider, ça marche pas. Presque jamais. Pourquoi ? Parce qu'un homme, il n'aime pas aider sa femme à faire autre chose. Bon, il aidera bien sûr, quand ça lui plaît. Mais si c'est elle, on va faire ceci, et toi tu vas faire ça, et tu vas faire ça, et tu vas dire... Il dit, oh, tu fais tellement bien, tu as tellement d'idées, tu es tellement intelligente, tu es tellement forte, c'est bon, moi, tu peux gérer seul, moi j'ai la télé, j'ai mon journal, j'ai mes pantoufles, c'est bon. Ah non, mais moi je te suis soumis, il n'y a pas de problème, hein, mais tu te débrouilles sans moi. Il démissionne, le misérable. Mais une femme... Elle s'intéresse à ce que fait son mari. Et tu pourrais me... Oui, pas de problème. Elle a envie d'aider. Dieu l'a créée avec ce désir. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que l'homme est tellement... aucun esprit de responsabilité, que la femme dit, bon, ben, si lui ne fait rien, il faut que moi, je prenne la chose. Et quand elle prend la chose, lui démissionne. Et puis, elle se trouve toute seule à porter tout. Et il y a des millions de femmes en France qui en sont là, mes amis. L'homme a dit, salut, je vais les voir, je m'en vais, je vis ma vie. Comme un garçon, il n'a jamais grandi. Comment préparer cette relation? Ben, l'homme est le meneur, donc il doit prendre l'initiative pour chercher un partenaire. Alors l'homme, il a un problème, il est attiré physiquement par son regard. Comme on dit aujourd'hui, c'est la plastique qui compte, n'est-ce pas, messieurs? Mais alors, justement, comme on sait que c'est un domaine de faiblesse pour nous, il ne faut pas baser notre choix là-dessus. Il faut baser son choix sur les règles de Dieu et non pas sur notre évaluation de la beauté physique. Un garçon qui cherche à se marier doit d'abord se poser la question, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? S'il voit la jeune fille, il dit, oh, je t'aime. Ah, d'accord. Et alors, ben, j'aimerais bien t'épouser. Ah, bon. Et on va où, là, avec tout ça? Ben, moi, je vais te regarder, puis tu vas me regarder. Ça va devenir un peu court, hein, au bout de quelques mois, de se regarder dans le blanc des yeux. Où est-ce que je vais? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Il faut qu'il y ait un projet. Il doit aller quelque part. Une jeune fille ne veut pas s'attacher comme un wagon derrière une locomotive qui va rester dans la même gare pendant 50 ans. Elle veut qu'il l'amène quelque part. Il y a, le mariage est un projet. C'est un projet. Alors, quels sont les projets? Il peut y en avoir plusieurs, professionnels, mais il doit être activement impliqué dans son église locale. Pourquoi faut-il qu'il soit impliqué dans l'église locale? Parce que l'église, c'est le plan de Dieu pour aujourd'hui. Dieu, qu'est-ce qu'il fait sur la terre aujourd'hui? Il travaille à travers ses églises pour atteindre le monde. N'est-ce pas? Si le gars n'est pas impliqué dans l'église locale, il n'a pas un projet complet, puisqu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et pas besoin de « Dieu m'a dit que je devais aller au culte tous les dimanches ». Non, Dieu le dit dans la parole. Et chaque fois que les portes sont ouvertes et qu'on est en santé et qu'on peut venir, notre place est là. On parle de fidélité, mais si on n'est pas fidèle là-dedans, on ne le serait dans rien d'autre. Ce jeune homme peut commencer à chercher à comprendre quels sont ses dons spirituels. Et il y a des tristesses à ce sujet. Je pense surtout à des jeunes qui se sont laissés dire « tu devrais faire un institut biblique », qui partent faire des études et pour diverses raisons, parfois ils n'ont pas le don, ils n'ont pas l'appel, mais ils ont toute cette connaissance et tout de suite on conclut « tu dois être pasteur, ok, je vais être pasteur » et au bout de quelques années, c'est l'échec. Mais c'est l'échec pour lui, mais c'est la souffrance pour son épouse. C'est terrible pour elle. Et c'est là, dans notre jeunesse, qu'on peut interroger les hommes et les femmes de l'Église, les gens plus âgés que nous. Comment me voyez-vous? Qu'est-ce que vous me voyez en train de faire? Quels sont mes dons? Est-ce que... Voilà. Et puis Dieu vous donne le désir de faire des choses pour lui. C'est, on a besoin de pasteurs. On a besoin aussi de gens qui ne sont pas des pasteurs. Mais il y a un travail à faire pour tout le monde, dans l'œuvre de Dieu. Ce jeune homme, il veut préparer son mariage, oui, mais il doit progresser dans sa lecture et sa compréhension de la Bible. Comment va-t-il enseigner la Bible à sa famille s'il ne la lit pas, il ne la comprend pas? Il doit se trouver fidèle dans son étude, dans son travail, dans toutes les responsabilités qui lui sont confiées. Ah oui, il y a des gars qui « Ouais, j'ai perdu ma place, et pourquoi? Mais moi, j'avais 3 heures de retard pour aller à mon travail. Ça fait 3 jours de suite, le patron, il m'a renvoyé. Tu veux m'épouser? Oula, mesdemoiselles, non! Non! » On voit un avenir d'instabilité devant soi. Être fidèle. Très important, ce jeune homme. Et les mesdemoiselles, je vous donne des tuyaux. Il doit honorer, chérir et respecter ses parents et être soumis à toutes les autorités dans sa vie. Oui, mon père, je ne le supporte pas, moi j'attends d'avoir 18 ans, je claque la porte. Ouais, c'est pas... Alors que les parents sont des gens que vous avez vu qu'ils étaient plutôt des gens normaux et plutôt bien. Ouais, ils m'empêchent de regarder la télé après minuit, ils me coupent le portable, j'ai quand même 14 ans. Je plaisante un peu, mais... Quand il n'y a pas de respect pour les parents, quand il n'y a pas de respect... D'ailleurs, les jeunes filles, vous savez, il y a une règle. Regardez comment il respecte sa mère, comment il traite sa mère, c'est comme ça qu'il va vous traiter. Un garçon ou une fille qui est en bis-bis avec ses parents pour aucune raison vraiment valable, eh bien, a un problème de relationnel dans sa vie et amènera ce problème dans votre couple. La préparation de la femme. Alors elle dit, moi, c'est moi qui suis, c'est moi qui aide ce garçon. Donc j'ai une grande responsabilité puisque c'est moi qui dis le oui ou le non final. C'est pas simplement, j'attends que quelqu'un vienne. Il y a des filles qui pensent, il me faut un chrétien. Il y a un chrétien qui me donne un mariage, c'est la volonté de Dieu, c'est un chrétien, c'est bon. Non, pas n'importe quel chrétien. Elle doit comprendre le principe de la soumission volontaire et joyeuse à son mari. Ah, oh, si vous dites, je vais être soumise, mais ça va être dur, hein, ça, je vous garantis que ça va être dur. Bon, je suis prêt à faire tous les sacrifices pour Jésus. Ne vous mariez pas avec celui-là. Si ça vous paraît vraiment un grand sacrifice et beaucoup de problèmes, laissez tomber. Quand la personne que Dieu a choisie, vous serez heureuse de lui être soumise. Vous serez soulagée qu'ils prennent les décisions finales. La jeune fille et les femmes sont attirées plutôt émotionnellement par les paroles douces et tendres de l'homme. Et on sait faire, mesdames, on sait faire. Oh, t'es merveilleuse. T'es une beauté, mais... J'aime ça. Ah non, même, Ali. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est avec la voix. Et allez. Oh oui, même, il m'a dit qu'il m'aime, je suis la plus belle femme du monde. Ah non, il a tout dit à 3 ou 4 autres la semaine dernière. Elle doit mettre de côté le côté d'âme jouant là et dire, bon, quelles sont les règles de Dieu et pas mes sentiments vis-à-vis des paroles que j'ai entendues. Il y a des choses pratiques. Je veux marier. Est-ce que je sais faire la cuisine? Est-ce que je sais faire cuire l'eau sans la brûler? Les arts de la maison, à commencer, mesdemoiselles, par la propreté. Vous connaissez? Dans mon jeune innocence, je suis l'aîné de 5 garçons. Dans ma jeune innocence, je pensais qu'il n'y avait que des garçons qui mettaient partout dans leur chambre. Et une fois, par malheur, j'ai pu voir la chambre d'une jeune fille. Je lui ai dit, non, elles ne sont pas comme nous! Certaines le sont, hein? Comment veut-on être une bonne maîtresse de maison si on ne sait pas ranger sa chambre quand on a 14-15 ans? La propreté, la cuisine, gérer un foyer, comprendre les enfants, tout ça fait partie de son futur travail. Et déjà adolescente, elle peut se préparer à ça. C'est vrai que l'amour de votre futur mari lui fera manger vos tartes brûlées, c'est pas grave. Mais si vous pouviez quand même y arriver mieux, dès les premiers jours, ça serait quand même positif. Et donc, au lieu d'être pendu au portable et puis à des jeux, on peut demander à maman, tiens, laisse-moi faire la cuisine pour une semaine, dis-moi les menus et je vais essayer de... Et dis-moi comment faire et moi je veux apprendre. Je veux apprendre toutes ces choses-là. Peut-être on se prépare à une carrière. École de droit, devenir avocate, pourquoi pas notaire, infirmière. Et c'est bien. La femme a ce double problème. Elle doit se préparer à une carrière comme si elle n'allait jamais se marier, tout en étant prête à se marier si l'occasion se présente. Un homme, il deviendrait fou avec ça. Mais la femme est assez douée pour pouvoir gérer les deux. Mais c'est important qu'à un moment donné, elles disent, oui, j'aime mon travail, oui, j'aime ce que je fais, mais je suis prêt à l'arrêter définitivement ou temporairement quand on a des enfants en bas âge parce que je veux vraiment m'occuper de ces gamins. Je suis avant tout maman, je peux peut-être reprendre plus tard. Mais si c'est je fais carrière, mon mari n'a qu'à s'occuper des gamins, voilà. Il faut en parler avant votre mariage et pas après. Mais si elle continue à travailler, c'est le cas souvent aujourd'hui, son mari et sa famille doivent être d'accord. Et ce foyer doit toujours avoir la première place dans son cœur, comme dans le cœur de son mari. Et puis, quand ce jeune homme vient finalement, il vient apparemment envoyé par le Seigneur pour me demander un mariage. Attention, il a dit des paroles fort douces. Ce garçon, avec un regard qui a fondu mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Peut-être je vais parler avec quelques hommes et quelques femmes de l'église, les tatas et les tontons de l'église, vous savez, tout le monde en a un, et demander qu'est-ce que vous pensez. Parfois, ils connaissent cette personne beaucoup mieux que nous et connaissent des choses qui peuvent nous aider à faire un choix. Pour un garçon, des questions à se poser. Maintenant, on va se mettre dans la situation. Vous avez prié, vous réfléchissez, vous êtes dans votre église, vous essayez de vivre pour le Seigneur dans votre vie personnelle. Vous avez vu une jeune fille qui vous a, comme on dit, tapé dans l'œil, mais plus que ça. Vous avez commencé à regarder comment elle est, et le sentiment se fait de plus en plus dans votre cœur. Elle pourrait peut-être être celle que Dieu veut pour moi. Peut-être ce serait elle. On ne va pas être absolu, hein, mais avant de dire vraiment c'est elle, posez-vous ces questions. Est-ce que j'admire cette jeune fille dans son caractère spirituel, dans ses réactions, dans son attitude? Si elle était ma femme, est-ce que je voudrais que tout le monde la connaisse? Est-ce que je suis persuadé que tout le monde l'apprécierait? Que c'est vraiment quelqu'un de bien, que j'aimerais que tout le monde la connaisse parce que je serais fier d'elle. Sinon, changez-le. Cette jeune fille, est-ce que c'est une bonne amie? Est-ce qu'elle se sent libre de me parler des défauts qu'elle voit en moi? Ça, c'est la grande question à 1 000 euros. L'homme dit, bon, mais j'ai pas de défaut, alors la question ne se pose même pas. Mais si d'aventure vous en aviez un, est-ce qu'elle pourrait vous le dire sans, ouais, qu'est-ce que c'est? Je croyais que tu m'aimais, tu m'acceptes tel que je suis. On dit l'amour est aveugle, t'as les yeux trop ouverts. Est-ce que je l'écoute vraiment? Est-ce que je respecte son point de vue? Et le coup était qu'une femme ne te comprend pas, ça marche pas. Une femme ne peut pas être une aide pour l'homme si l'homme ne peut pas écouter. Hein, réfléchissez à ça. Avons-nous les mêmes valeurs? Arrivons-nous à discuter ouvertement et parvenir à un accord, à forger des convictions que nous partageons entièrement? Et puis, posons-nous la question, messieurs. On va avoir une discussion un jour avec cette personne qui sera devenue ma femme entre-temps et on ne va pas arriver à se mettre d'accord. Et on va devoir faire un choix. Il faudra faire un choix. Est-ce qu'elle acceptera que j'ai le dernier mot et que je fasse la décision finale? Est-ce qu'elle l'acceptera ou non? Une autre question. Quelle est sa manière d'être? Comment s'habille-t-elle? Comment agit-elle devant d'autres hommes? Est-ce qu'elle est modeste ou provocante? Son attitude est-elle pure et ouverte ou plutôt est-ce qu'elle semble vouloir séduire par sa manière, par sa démarche, par cette attitude, par sa tenue? Tout le monde connaît un peu ce genre de personne qui est voilà et est-ce que tu m'as vu? Vous dites, ouais, c'est super quand je la regarde comme ça, mais si c'était votre femme qui se promenait comme ça, qu'est-ce que vous allez ressentir? Il n'y a pas de place là-dedans pour dans l'œuvre de Dieu. Ai-je vraiment la paix d'épouser cette jeune fille? Quel est le conseil de ceux qui nous connaissent bien? Est-ce qu'il y a un consensus parmi eux que nous sommes dans la volonté de Dieu? Quand il n'y a que vous deux qui disons, on sait que c'est la volonté de Dieu, et le pasteur, les diacres, les hommes et les femmes de l'Église, tous ceux qui sont là, qui vous respectent, disent, on ne le sent pas, vraiment pas, on vous aime tous les deux, mais alors demandez-leur pourquoi, ils vous donneront des raisons. Réfléchissez. Normalement, quand c'est dans la volonté de Dieu, le corps du Christ, vos parents, en consensus et général, c'est, on a la paix, que ça peut être la volonté de Dieu. Pour la jeune fille qui regarde le jeune homme et lui, elle doit se poser des questions. Est-ce que je me sens en sécurité avec ce garçon? Est-ce que je suis confiante qu'il fera tout en son pouvoir pour me protéger physiquement et protéger ma réputation et ma pureté? Ce genre de nul qui dit « Ouais, si tu m'aimes vraiment, prouve-le !» C'est des choses qui ne doivent jamais être dites par un chrétien ni entendues par une jeune fille chrétienne. Prouve que tu m'aimes, protège-moi de tes avances. Oui. Lorsque nous parlons ensemble, dit-elle, quels sont les sujets que nous abordons? Est-ce qu'il a jamais suggéré qu'on lise la Bible et qu'on prie ensemble? Est-ce que j'ai le sentiment qu'il est sincère? Est-ce que mon temps avec lui me pousse à vouloir être une chrétienne meilleure et plus obéissante? Ou est-ce que quand je passe du temps avec lui, à la fin je me sens plus loin du Seigneur et troublé? Je vous garantis, quand vous passez du temps avec la personne qui n'est pas la volonté de Dieu, vous allez vous sentir troublé, presque sali, même si vous n'avez rien fait de mauvais, vous allez vous sentir pas bien. Le Saint-Esprit va essayer de vous dire, ne continuez pas. Quelle est l'opinion de notre pasteur et les dirigeants de notre église concernant ces garçons? Comment ces garçons traitent-ils ses parents? Est-ce qu'il leur montre de l'amour et de l'affection? Excusez, mais les garçons, n'écoutez pas, juste les filles, ok? Quelle est son hygiène personnelle et sa tenue vestimentaire? Dans quel état maintient-il son appartement ou sa chambre? Peut-être vous n'avez pas les moyens de le savoir, mais vous pouvez quand même faire une enquête. Si vous dites, je l'aime tellement, je suis prête à ramasser ses chaussettes sous le lit pendant 40 ans. Allez-y alors, parce que c'est ce que vous aurez à faire. Mais, je vous garantis, c'est quand même plus agréable d'être la femme d'un homme qui se douche régulièrement et que la première chose quand il passe la porte, c'est pas son odeur. Est-il impliqué dans le ministère de l'Église? Est-il fidèle dans ses responsabilités? Est-ce qu'il les prend au sérieux? Est-ce qu'il vient préparer et à l'heure? Comment réagit-il lorsque j'essaie de lui indiquer un domaine dans lequel il pourrait peut-être s'améliorer? Alors, mademoiselle, laissez passer la première réaction. C'est juste de l'orgueil masculin, vous savez. Ça nous colle à la peau. Mais attends, mais quoi? Parce qu'on, d'abord, on se donne plein d'excuses. Hein? Est-ce que tu as vu un peu comment mon programme et tout? Non, mais tu te rends pas compte? Alors, insistez quand même. Non, mais quand même, tu devrais... Oui, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, c'est vrai, je te demande pardon. Je vais... Ah, c'est un bon... Ça commence à n'aider jamais. Parce que s'il ne les accepte pas avant que vous ne soyez mariés, soyez certain qu'il ne les acceptera pas après. Est-ce que je l'ai jamais vu en colère? Pour quelle raison? Combien de temps cette colère a-t-elle duré? A-t-il péché? A-t-il demandé pardon? S'est-il mis en règle? J'ai parlé avec un jeune homme l'autre jour qui a dit « Je connais quelqu'un qui a énormément de problèmes interpersonnels, mais il ne demande jamais pardon à personne. » Personne ne se souvient que cette personne n'a jamais demandé pardon à qui que ce soit. Mes amis, c'est grave. Parce qu'on fait tous des erreurs. Et quand on ne sait que se justifier et jamais demander pardon, on va détruire nos relations peu à peu. Et la colère, la Bible parle en proverbe d'un homme coléreux, vous connaissez, colérique, même le gars. Il y a des filles, même elles sont en train de fréquenter, elles sont peut-être fiancées, elles ne sont pas encore mariées. Il a vous dit quelque chose, il a dit, ne dis pas à mon fiancé ou à mon copain parce que sinon je ne sais pas comment il va réagir, ça va péter des flammes, je n'aimerais pas être là quand il va l'apprendre. Est-ce qu'elle s'imagine où va cette relation? Comment va-t-elle faire quand ils se mettent en colère qu'ils sont dans un petit appartement tous les deux? Non mais, un homme qui ne maîtrise pas sa colère, c'est vraiment dangereux. Et s'il dit, moi, t'en fais pas, je ne te toucherai pas, je défoncerai la porte, je défoncerai le plâtre, mais je ne mettrai pas la main sur toi et je réparerai après. Vous êtes sûr que vous voulez un tel homme dans votre vie? Est-ce qu'il a une idée de ce que Dieu a planifié pour sa vie? Est-ce qu'il prie dans ce sens? Est-il ouvert au conseil? S'il est appelé au service du Seigneur comme votre pasteur, est-ce qu'il a le caractère et les dons pour réussir? J'ai rencontré une fois une femme. On était avec eux, des gens formidables, des chrétiens vraiment consacrés. Elle dit, oh, parlez à mon mari, mais je voudrais être la femme d'un pasteur et mon mari ne veut pas être pasteur. Moi, j'ai compris. Le gars n'avait rien d'un pasteur. Et c'était très bien comme ça. Le malheur n'était pas là. Le malheur, c'est qu'elle voulait être femme de pasteur, donc elle voulait faire de son mari un pasteur, alors qu'il n'en avait ni le goût, ni le désir, ni les dons. C'est malheureux, ça, voyez. Alors là, ou dans un cas comme dans l'autre, le gars qui sent l'appel de Dieu sur lui, je vais être pasteur, je crois que Dieu m'appelle, je sens l'appel de Dieu, et toute l'église le voit, il a la main de Dieu sur lui, et il épouse une fille qui dit, pas de pasteur, hein. Ils sont pauvres, on les critique dans l'église, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Et puis tu vas faire des études de machin, et puis on va vivre dans la misère, et non, moi je veux un ingénieur. Il va essayer d'être pasteur et ça va foirer parce que sa femme ne veut rien savoir. Et elle va faire savoir à tout le monde que ça ne l'intéresse pas. Et l'église va être choquée. Mes amis, c'est des choses qui viennent d'expérience. Est-ce que j'ai le même désir et le même appel que lui? Quelle est son attitude vis-à-vis de l'argent? Est-ce qu'il le dépense sagement ou non? Quand il s'amène chaque fois, ouais, j'ai un nouvel ordinateur. Ah, tu vois, j'ai trouvé le jeu vidéo qui vient de sortir, c'est super, 360€. C'était un deal formidable, je l'ai commandé sur Internet. Au fait, est-ce que tu peux dépanner de 200€ jusqu'à la fin du mois? Je suis un peu court. Imaginez ce que ça va faire dans le ménage. Comment traite-t-il les autres jeunes filles de l'Église? Y a-t-il le moindre signe qu'il pourrait un jour m'être infidèle? Ou est-ce qu'il est vraiment un frère et un ami pour elle? Alors, pour terminer, parfois les jeunes, et même dans les milieux chrétiens, dans le monde en tout cas, c'est comme ça. Attends, avant de se marier, il faut trouver la bonne personne. Pour trouver la bonne personne, il faut sortir avec un échantillon, voyez, de différentes personnes. Alors, si vous êtes dans une église, vous avez 10 jeunes filles, ben il faut envoyer, on va prendre une et puis sortir avec elle pendant 3 mois, on va aller au ciné, ou on va juste prendre un McDo après le culte dimanche soir ou dimanche matin, on va faire des promenades dans le parc, on va aller chez elle, chez moi, et ça va durer quelques temps, puis on verra si ça prend. Si ça ne prend pas, on arrête, on prend une autre, et puis bon, on aura de l'expérience, et comme ça, on sera bien à même de choisir la bonne personne parce qu'on a fait le tour. Ça sonne un peu logiquement, n'est-ce pas? Seulement voilà, c'est que pour que ça prenne, on va tenir la main, on va mettre la main autour, on va s'embrasser, puis fatalement on va dire « je t'aime follement, tu es tout pour moi, tu es la femme de ma vie, tu m'as... » Bon. 3 mois après, on prend une autre et on fait la même chose. Qu'est-ce qui garantit à la personne qui va dire oui à votre demande de mariage que vous serez fidèle parce que vous avez été capable d'être infidèle pendant plusieurs années en disant à chacune que vous l'aimiez et que finalement ça casse? On dit, ah mais non, ce mariage c'est sérieux. Pourquoi c'était pas sérieux avant? Pour connaître la volonté de Dieu, est-ce qu'on est obligé de voir si ses épaules vont bien dans mon bras? Est-ce qu'on est obligé de voir si, quand on met nos 4 lèvres ensemble, il y a une flamme? Est-ce que c'est ça qui va déterminer? Non, de toute façon pas. Je vous propose quelque chose. Quand vous avez fait votre travail de prière, de réflexion, et que vous pensez avoir trouvé quelqu'un de spécial, peut-être quelqu'un qui pourrait être la volonté de Dieu pour vous, pourquoi ne pas lui demander « Est-ce que tu accepterais qu'on se rencontre régulièrement chez quelqu'un qui comprendra ce que nous sommes en train de faire ou dans un lieu public bien éclairé pour que nous puissions parler ensemble de savoir si Dieu nous mène dans cette direction ou pas, prier ensemble pour la volonté de Dieu dans nos vies respectives, lire la Bible ensemble, jusqu'à ce que Dieu nous montre oui ou non pour nous deux. Là, vous n'avez pas demandé à la personne en mariage, monsieur. Elle ne vous a pas dit « je t'épouserai pas ». Elle est juste prête à engager un temps de prière, de réflexion. Et la règle, pour que tout soit clair, on ne se tiendra pas la main, on ne s'embrassera pas tendrement, on ne se mettra pas dans un coin, on va traiter ça comme étant la grande décision de la volonté de Dieu pour notre vie, c'est sérieux, je veux protéger ta réputation. Vous savez pourquoi? Parce que quand on trouve la personne qui est la volonté de Dieu, et on commence à préparer le mariage, il y a ce moment important, quand la jeune fille, généralement c'est elle qui dit « Alors, j'ai une question à te poser, mais je ne sais pas comment tu vas la prendre. »
Bon, elle pose toujours.
Est-ce que tu as connu notre fille avant moi?
Oui, rien de, hein? Non, mais on rien fait, on peut faire presque rien.
Oula, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire presque rien? Vous êtes embrassés?
Ouais, quelque temps.
Combien de temps ça a duré? Oh, 2-3 minutes. Vous êtes tenu la main? Qu'est-ce que vous avez? Oh, mais je ne veux pas en parler. Et ça ouvre à tous les soupçons, n'est-ce pas? Si on veut un mariage, il faut tout raconter. On ne peut pas entrer avec des secrets. Et pareil pour la jeune fille. Alors si le gars dit oui, ben j'ai dit à une dizaine de jeunes filles que je les aimais tendrement, que je voudrais les épouser, que j'étais fou d'elles, on s'est embrassés, on s'est tenus, voilà, etc. On est allé peut-être un peu trop loin, on n'a rien fait d'immoral, hein, mais bon, ça a commencé à monter en température et après ça a été fini, et puis avec une autre... Imaginez, vous arrivez le jour de l'hôtel, et puis là... Le monsieur descend avec sa mariée, et puis une jeune fille sort de l'assistance et prend l'autre bras. Je descends avec vous. Mais qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi tranquille, tu es mon ex. Oui, mais tu m'as dit que tu m'aimais, que tu m'épouserais, alors moi je viens. Puis une autre fille sort des rangs et prend le cou de l'autre. Ben moi aussi tu m'as dit la même chose. Et puis un autre, il arrive avec 5 bonnes femmes. C'est un cauchemar, non? Oui, mais émotionnellement... C'est ce que ces jeunes ont vécu. Alors, après, on peut dire que c'est un jeu, mais ce n'était pas vraiment un jeu au moment donné. C'est pour ça que si on a des moments de prière, de réflexion, de discussion ouverte, des promenades, mais qu'on ne se touche pas, on n'a rien fait de mauvais. On ne dit pas « je t'aime, je suis fou de toi, je suis folle de toi, machin, oh, tu me... Wow. » Non. C'est un temps pour chercher la volonté de Dieu. Il se peut qu'au bout d'un petit moment, les deux disent « mais vraiment, on n'a pas grand-chose à se dire, on ne se sent pas vraiment, non, c'est vrai que ça ne prend pas, enfin, je ne sens pas vraiment la paix du Seigneur, mais moi non plus, mais écoute, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Merci infiniment. » Et on va prier l'un pour l'autre que Dieu dirige. Là, rien ne s'est passé, sauf de bonnes choses. Et on reste amis. Et surtout, ce jour fatidique, quand on trouve la personne, et qu'elle dit, alors, avec l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a prié ensemble. Non, ça, tu me diras qui tu veux. Oui, mais je fais avec elle comme j'ai fait avec toi. Ah ouais. Oui, ben là, on n'a rien fait, là, c'est sûr que... D'accord. Vous ne trouvez pas que ce serait une manière plus responsable, plus spirituelle, plus biblique, plus adulte, de prendre la décision la plus importante de notre vie? Je vous encourage, dans un monde de péché, de perversité, à être pur, à être joyeux, à ne rien faire que vous aurez à regretter par la suite. Et comme ça, bâtir un vrai foyer basé sur la Bible, plein d'amour. Plein d'amour et de dévouement pour Jésus. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous enseignes toujours plus cet amour agapé, cet amour divin. Et permets-nous d'en faire la base pour nos relations dans l'Église, dans nos foyers et dans les futurs couples de ceux qui sont ici ce soir. En Jésus-Christ. Amen.
Amen.